les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième librairie francophone du week-end. La librairie francophone estivale, c'est tous les samedis à 9h sur toutes les radios publiques francophones. Et le dimanche, uniquement sur France Inter, on vous propose une autre émission avec un reportage, un livre de poche pour l'été, un souvenir et un grand entretien. Et puis pour les auditeurs ultramarins et pour tous ceux qui s'intéressent aux cultures des Outre-mer, un bonus créole en fin d'émission. Aujourd'hui, Annie Ernaux vous parlera des supermarché. Nous irons en Guadeloupe à Marie-Galante sur les traces du poète Guy Tyrolien. Claire Balavoine rendra hommage à son frère Daniel Balavoine dans notre séquence souvenir et nous serons en plateau avec Josiane Balasco. Chaque semaine en soutien aux librairies indépendantes, nous serons aussi en ligne avec un libraire français pour qu'il nous donne son coup de cœur estival et qu'il nous raconte une anecdote de libraire. Aujourd'hui, cap sur Lille, dans le nord de la France, mais avant, direction la Guadeloupe.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
On part à Marie-Galante, à présent au large de l'île de la Guadeloupe, perle des Antilles, aux plages célestes et aux champs de canne à sucre à perte de vue. Marie-Galante est aussi l'île de Guy Tyrolien. Proche de Césaire et Senghor, Tyrolien est un immense poète, méconnu du grand public, et pourtant, lui aussi, au même titre que ses illustres confrères, a contribué à faire émerger la négritude, puis la francophonie. Son ami et fils spirituel Max Ripon nous guide sur son île, sur les traces du poète.
On pose le pied sur le sol de Marie-Galante après 45 minutes de traversée depuis le port maritime de la Guadeloupe et l'arrivée donc sur l'île de Marie-Galante avec un dégradé de bleu, le ciel bleu bien sûr avec quelques nuages fragmentés là au-dessus de nous et puis dégradé de bleu turquoise sur la mer. Et on est sur le petit port de Marie-Galante avec quelques bateaux, une vingtaine de bateaux seulement.
Bonjour, bonjour. Comment Max Ripon, bienvenue à Marie-Galante, bienvenue sur les terres de Guy Tyrolien et de la mienne.
Alors allons-y, on va découvrir Marie-Galante avec vous et on va surtout faire le portrait de Guy Tyrolien et nous allons aller sur les traces de Guy Tyrolien car tout se passe ici à Marie-Galante.
Tout à fait, c'est-à-dire que Guy Tyrolien est curieusement, mais c'était à l'époque, est né à Pointe-à-Pitre. C'est là qu'il y avait la maternité. Mais on a beau naître quelque part et on s'enracine là où on veut. Son enracinement est à Marie-Galante. Mais je suis convaincu que les premiers instants de la ville, là où on a posé ses pas, comme une tortue, on revient forcément là. Il y a une mémoire extraordinaire qui fait qu'on est de là.
Où va-t-on là, Max?
Nous allons aller vers la maison familiale où il est né, enfin, où il a grandi. Elle est construite en 1903.
Ah oui, avec quatre fenêtres encadrées de pierres de l'époque, et puis juste un seul étage. Ouais. Max Ripon, vous êtes auteur, hein, vous-même, auteur né ici à Marie-Galante, auteur de romans, de poésie, en français et en créole. Et vous dites qu'il faut de l'énergie pour comprendre Marie-Galante. Quel type d'énergie il faut?
Il faut déjà être soi-même et en paix avec soi-même. Pour rester ici et accepter le temps de l'étiage. Quand on est dans le pays, on prend la cadence du pays, et ma voiture est garée, elle n'est pas bien garée, elle ne gêne personne, elle est garée parce qu'on fait quelque chose. Tout le monde sait qu'on fait quelque chose et personne ne nous énerve.
Elle est un peu garée n'importe comment.
Enfin, elle est garée. elle est plutôt égarée dans la rue, mais en fait, personne ne nous fait la gueule, etc. Et tout. Je crois que c'est cette gentillesse-là qu'il faut qu'on arrive à préserver, que dans nos écritures, dans nos poésies, nous mettons en place, parce que nous sommes déjà porteurs de cela, de cette paix-là, donc on peut la diffuser. Nous prenons la route qui mène chez Guy Tyrolien, bordée à gauche par des flamboyants. On est dans la forêt sèche, avec les acacias, les campéchiers, et les tourterelles sont les seuls oiseaux de la région. Et on avance vers Tyrolien, et voilà, ben nous arrivons à 50 mètres de la maison Tyrolien.
Avec la mer qui est juste en face, on arrive sur une colline, et on domine tout Marie-Galante ici.
Thank you. monde.
Il y a un chien déjà.
Mais le chien, il est poli.
Regardez-moi ça. Oh là là, oui. Alors voilà, effectivement, là on surplombe Grand-Bourg. Puis toutes ces maisons, les maisons créoles, hein, qui sont là typiques, on les voit d'ailleurs avec les toits blancs.
Et souvent, Guy me disait, Guy Thirolien, que revenir ici, écrire, c'est un besoin pour compenser quelque chose. Quand il n'y a rien à compenser, on est en paix, en sérénité. Comment on ne peut que rester là contemplatif, je veux dire, hein, quand on a ça. L'horizon est déplacé. À chaque fois qu'on réfléchit, on le repousse, cet horizon-là.
Sur une grande terrasse avec des arcades. Arcade blanche, une maison qui surplombe donc cette baie de Grand-Bourg.
La jeunesse nous accueille.
Comment vas-tu? Bonjour monsieur.
Bonjour madame, enchanté.
Comment vas-tu?
Ça va, je te remercie. Voilà, j'ai amené ces intrus jusqu'à toi.
Eh bien, c'est bien.
Guy Thirolien avait cette conscience d'ailleurs de la poésie, évidemment, mais la conscience du son, celle qui fait de la poésie un modelage de la langue. Il disait que avant même la poésie, avant même le sang, c'était la musique qui l'intéressait, c'était la musique qui le portait.
Le rythme. Il en a parlé d'ailleurs, il a même fait un vers. Et mon mari, c'était un mélomane. Il aimait beaucoup la musique, notamment la musique de jazz.
Alors c'est vrai que dans ces vers, il y avait des allitérations, des assonances aussi. Par exemple, « Griot glapit ton chant strident ». Voici volant le cri des circoncis, la polyrythmie tendre des pilons. Ou alors, Émaras, aussi vivace que l'acacia coriace qui pousse à Saint-Domingue, que vous connaissez par cœur.
Enfin, je connais quelques vers comme ça, ça me revient.
Alors Thérèse, Guy Thirolien participe à l'ébullition de la négritude qui aboutit à la création de Présence africaine. Et de 1944 à 1960, il est administrateur de la France d'outre-mer en Afrique. Et alors il est fait prisonnier des Allemands hein, pendant la guerre. Oui. Et en 1942, donc il est libéré. Mais en 1940, dans le Stalag, où il est prisonnier, il rencontre quelqu'un d'autre, très important, c'est Léopold Sédar Senghor.
Oui. Sa première rencontre en France a été avec Damas. Et Damas lui avait parlé déjà de Senghor et de Césaire. Et là, il a rencontré Senghor pendant 2 ans. Donc, ils ont pu discuter, échanger et Senghor lui a parlé déjà de ce qu'il avait déjà écrit. Et puis, à la libération, ils se sont retrouvés à Paris. Et c'est à ce moment-là que Senghor lui a présenté Césaire.
Et c'est vrai que votre époux, Guy Thirolien, va participer. Alors, on le sait moins parce qu'on connaît Césaire, on connaît Senghor. Mais il va participer donc à la négritude, ce qui va aboutir aussi au lancement de ce concept, hein, la francophonie. Donc, il est à l'origine, il participe à tous ces travaux.
Oui, il participe. Et à Paris, il a fait la connaissance d'étudiants africains, dont un, Sankalé, Sylvain Sankalé, et c'est ensemble d'ailleurs qu'ils sont rentrés en Afrique.
Alors il est l'auteur d'une poésie célèbre, « Prière d'un petit enfant nègre ». C'est une poésie qui raconte l'histoire d'un enfant nègre qui ne veut plus aller à l'école. Hein. De quelle école parle-t-il exactement?
Eh bien de l'école que nous avions en Guadeloupe, ouais. L'école française, ouais. Qui nous parlait des choses qui n'étaient pas d'ici. Voilà. Seigneur, je suis très fatigué. Je suis né fatigué. Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq. Et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers que cuisent les flammes de midi. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs. Mon mari était vraiment, je pense, un humaniste avant tout. Et il avait confiance en l'homme. Et voilà, donc c'est un monde nouveau, c'est un monde qui a un avenir certain. Mon mari avait croyait fortement, et voilà.
Je crois que Guy Thirolien a construit beaucoup de nos réflexions en Guadeloupe, et ça c'est important.
Très bien. Merci beaucoup. Merci Thérèse Tyrolien de nous avoir accueillis ici. Merci pour votre accueil chaleureux avec cette vue magnifique.
Merci d'être venu chez nous.
On est ravis.
Pour évoquer un peu quelques souvenirs concernant Guy.
On est ravis. On va continuer à faire vivre sa mémoire à notre façon. Merci beaucoup. Et la poésie de Guy Tyrolien est à lire aux éditions de L'Harmattan et chez Présence Africaine. Que vous soyez en vacances ou bien encore en période d'activité professionnelle, vous allez forcément aller dans un supermarché cette semaine. Annie Ernaux a étudié de près les supermarchés dans un petit livre paru en poche chez Folio, un entretien réalisé en public à Namur. Annie Ernaux est dans la librairie francophone à l'Intime Festival. Nous allons parler de votre livre, Annie, Regarde les Lumières, mon amour, réalisé dans le cadre d'une initiative citoyenne, le Parlement des Invisibles, qui incite comme ça le public à s'exprimer, mais aussi les auteurs à publier.
Oui, sur un aspect de la société. Enfin, moi, ce qui m'intéressait de choisir, c'était qu'est-ce qui se passe dans un centre commercial et un hypermarché. Et pas du tout sur le plan de la dénonciation de la société de consommation, de simplement observer les gens, regarder de quelle façon, j'allais dire, ils s'emparent justement des choses, de la nourriture. Quel est leur rapport aux caisses, ce qui se passe, la population qui fréquente le centre commercial, et c'est tout à fait ambivalent finalement, c'est-à-dire c'est la loi du désir, on désire des choses, et même si on a très peu de moyens, il y a toujours justement ce désir.
Mais voilà. D'ailleurs, vous dites, Annie, que cette corvée des courses dont on se plaint tout le temps, c'est aussi quand même la rançon de la prospérité, en tout cas pour ceux qui peuvent.
Oui,
remplir le caddie.
Tout le monde vient à l'hypermarché pratiquement. Alors évidemment, c'est pas un sujet apparemment très littéraire. Hein. J'ai reçu des belles volées de bois vert là-dessus, parce que on s'imagine que tout ce qui est proche, tout ce qui est vraiment de notre quotidien, en réalité, c'est pas intéressant. Mais au contraire. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, sont les choses les plus infimes, comment justement une femme va disposer ses affaires sur le tapis de caisse, tout ce qu'il y a sur le tapis qui montre le moyen dont on dispose justement. Et je ne me moque pas.
Mais c'est vrai que vous expliquez, Annie Ernaux, lorsqu'on déballe ses achats sur le tapis de caisse, on dévoile une partie de son intimité.
Absolument.
On est jugé par les autres.
C'est la plus importante. Oui. Parce que c'est quand même manger, hein, se nourrir, c'est quand même la base, c'est un besoin universel. Et donc on dévoile sa culture aussi, on dévoile si on est seul, si on a des enfants,
C'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans ce passage, exposant comme nulle part autant notre façon de vivre et notre compte en banque, nos habitudes alimentaires, nos intérêts les plus intimes, même notre structure familiale. Les marchandises que l'on pose sur le tapis disent si l'on vit seul, en couple, avec bébé, jeunes enfants, animaux. Rien n'a changé depuis Zola, Le Bonheur des Dames. Vous le citez d'ailleurs.
Oui.
Le client privilégié, c'est toujours la femme. Ouais, et on est toujours dans une économie de marché radicale. Quoi.
Oui, mais qui prend des formes différentes. Hein. Je pense qu'il y a une utilisation par les grands groupes comme c'est Auchan, dont je me suis occupée. Il utilise par exemple les cultures qui sont aussi françaises actuelles, c'est-à-dire qu'au moment du Ramadan, nous avons effectivement on fête aussi le premier de l'an asiatique.
C'est la grande tolérance, en fait. Aucun racisme, chacun a sa place.
Absolument.
Mais ce n'est pas désintéressé, évidemment.
Mais ce n'est pas désintéressé.
C'est du marketing ethnique, c'est ce que vous écrivez. Vous pouvez applaudir Annie Ernaux, quand même, voilà. On a un public magnifique dans ce théâtre majestueux ici à Namur. Qu'allez-vous chercher, Annie Ernaux, dans un supermarché? Est-ce que vous cherchez parfois un placebo à votre solitude, des fragments de vie pour vous inspirer?
Non, j'aime. Je veux dire que l'écriture, c'est un acte tellement solitaire et qui marche pas très bien tout le temps. Et quand ça va pas, eh bien moi j'ai du plaisir à aller à l'hypermarché, aller au centre commercial des Trois Fontaines, à Cergy, et à me mêler aux gens. C'est très important. Et à regarder, et d'un seul coup, je crois que quelque chose se passe d'un partage qui va nourrir, qui va me permettre ensuite de repartir.
Vous écrivez les femmes et les hommes politiques, les journalistes, les experts, tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un hypermarché ne connaissent pas la réalité sociale d'aujourd'hui.
Ah, ça, j'en suis absolument certaine.
Alors, Annie Arnaud, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pudeur dans ce livre. Moi, j'ai trouvé que vous prenez beaucoup de distance avec le sujet. Par exemple, à un moment, vous parlez de ces consommateurs qui s'auto-excluent, à savoir les très pauvres ou les sans domicile, qui n'osent pas entrer ou qui sont évidemment refoulés par les vigiles. Et vous montrez aussi que dans ces hypermarchés, en tout cas en France, pour les moins pauvres, on va dire, il y a ces espaces discount où l'on trouve comme ça des quantités de marchandises de très bas de gamme en grande quantité, avec des colonnes de distribution pour se servir au poids. Mm-hmm. C'est terrifiant, ça.
Oui. Et en même temps, c'est encore justement cette volonté des grandes surfaces de satisfaire toutes les bourses. Et c'est là où ça a un aspect totalement conservateur, absolument conservateur. C'est-à-dire que tant qu'on a un petit peu à manger et pour pas cher, eh bien, je vais aller très vite, on fera pas la révolution. Ben oui, c'est ça. Voilà. Donc, ce sont des alliés. C'est tout de même des alliés de très très forts du libéralisme le plus sauvage.
Ouais. C'est une consommation qui nous domine en quelque sorte. On est un peu les sujets des rois de la conso, en position d'infériorité, écrasés comme ça par les décisions de ceux qui fixent les prix, parce qu'ils gèrent notre budget indirectement.
Oui, absolument. Hein? Et puis, à un moment, on est pris dans une nasse un soir, on aurait pu prendre, se servir, etc. Et il y avait une file d'attente incroyable, 2 heures. Et je me suis dit, j'ai pensé au film Le Grand Soir, justement. Parce que ça peut pas marcher, en fait. Ça peut pas marcher.
Le livre d'Annie Arnaud, Regarde les lumières, mon amour, est paru en poche chez Folio au prix d'un magazine à lire absolument cet été. De la musique en version acoustique dans notre studio à présent, avec le groupe réunionnais L'Indigo, qui nous a offert une version de son titre phare Comme ça Gaillard, extrait de son album éponyme.
Les histoires, mon sang pour la paille, mon number one, ça va danser dans le bal Gaillard à soi. Ramoussa pour la paille, mon number one, ça va danser dans le bal Gaillard. Mais dis-toi, Ramoussa pour la paille, mon number one, ça va danser dans le bal Gaillard. T'as l'air. Ramoussa pour la paille, mon number one, ça va danser dans le bal Gaillard. Où ça va danser? Où ça va danser dans le bal Gaillard? Où ça va danser? Où ça va danser dans le bal Gaillard? Où ça va danser? Où ça va danser dans le bal Gaillard? Où ça va danser? Où ça va danser dans le bal Gaillard? Ça va danser dans le bal Gaillard à soi. Tamoussa pour la paille, mon number one, ça va danser dans le bal Gaillard. Mais dis Tamoussa pour la paille, mon number one, ça va danser dans le bal Gaillard. Tamoussa pour la paille, mon number one, ça va danser dans le bal Gaillard. Nous l'a dit comme ça, tout le monde est content. Comme ça, maman et Gaillard. Comme ça, tout le monde est content. Comme ça, maman et Gaillard. Nous l'a dit comme ça, tout le monde est content. Comme ça, maman et Gaillard. Et Diallo. Comme ça, tout le monde est content. Comme ça, maman et Gaillard. Mais dis-toi, moi, ça pour la paille, mon number one. Ça va danser dans le bal Gaillard. Assois. Comme ça pour la paille, mon number one. Ça va danser dans le bal Gaillard. Ça va danser, où ça va danser dans le bal Gaillard. Où ça va danser, où ça va danser dans le bal Gaillard. Où ça va danser, où ça va danser dans le bal Gaillard. Où ça va danser, où ça va danser dans le bal Gaillard. Où ça va danser, où ça va danser dans le bal Gaillard. Ah wo mon cousin yé, oul ton maloya. Ah té ma cousin yé.
C'était le groupe L'Indigo dans le studio de la librairie francophone avec Comme ça Gaillard. On reste dans le monde de la musique avec notre séquence souvenir et la sœur de Daniel Balavoine.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
liberté, la tolérance, l'espoir, la vérité que tous nous promettent, nous les attendons. Et quand nous les revendiquons, nous devenons idéalistes. C'est vrai, c'est facile d'être contre tout, mais ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de n'être pour rien. Moi, je vous le dis, il vaut mieux rêver tout haut que de subir le cauchemar en silence. Toute la classe politique tient un discours complètement décalé par rapport à la réalité. Les hommes politiques sont des pros. Le pro exerce un métier. S'il s'en sort, s'il essaye d'être authentique, il risque finalement sa carrière. Il est piégé et il nous piège. Nos grands-pères et nos pères le disaient déjà. Tous les mêmes. Ce qui est grave, c'est justement qu'aujourd'hui encore, 50 ou 100 ans après que l'on ait fait cette constatation, il faille le rappeler. Les journalistes ont en principe la possibilité de dire tous les jours ce que moi, j'ai eu la possibilité de dire en une seule fois. Mais tout le monde ferme sa gueule.
Pierre Assouline sur la musique de Daniel Balavoine et cette chanson hommage à l'Afrique et aux femmes pour la femme veuve qui s'éveille. Cet album, Loin des yeux de l'Occident, c'est le plus engagé, c'est le plus international, Claire Balavoine.
Oui, je crois là, je suis encore émue là, sous le choc.
De ses paroles.
Ben oui, parce qu'il était tellement lucide, tellement pressé de faire comprendre ce que lui avait déjà dans ses tripes. Là, je suis encore un petit peu bouleversée. Oui, c'était le plus important, d'autant qu'en plus, il enregistrait la musique, tout ça, et au Maroc, et au Mali aussi. Donc, il était vraiment les pieds sur terre et d'une vie incroyable.
Et il a intégré tout cela dans sa musique. On va y revenir dans un instant. Juste avant, on va rappeler que vous avez monté cette association Daniel Balavoine et que vous poursuivez l'action de votre frère. Elle continue cette action avec l'installation des motopompes. Il faut savoir qu'une motopompe irrigue 20 hectares et un hectare donne 7 tonnes de riz par récolte. L'idée, c'était l'idée de Daniel, ça, c'est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire.
C'était surtout le désir des populations. Ce qui est le plus fort dans tout ça, c'est que c'est une nuit dans un bivouac entre Thierry, Sabine, son ami, et lui-même, entre autres, d'où la création des Paris du Cœur, non pas pour les Blancs imposer quoi que ce soit à nos anciennes colonies françaises, mais voilà, quel est votre problème? Et l'association, j'ai rien fait, moi. Je n'ai fait que me mettre à côté du public qui est passé de l'image et du son à l'action, qui nous a envoyé des milliers de lettres, des milliers d'argent, et qui nous ont dit, on n'est pas connus, les hommes, on ne peut pas les acheter, mais les motopompes, oui. Et c'est né le jour même de l'annonce de sa disparition. Voilà, c'était il y a 30 ans.
Alors dans ce livre, Claire Balavoine, vous retracez la carrière de votre frère au moment où il se trouve en Afrique sur le Paris-Dakar pour son action humanitaire l'année de cet accident d'hélicoptère. Eh bien, son album Sauver l'amour vient de sortir. Et alors qu'on le voit comme ça en action, hein, presque en direct, au quotidien, à la télévision, auprès des villages africains, on entend une chanson qui fait un écho direct à son engagement. Daniel Balavoine, qui a cette voix très particulière. Au début de sa carrière, c'est à la fois ce qui attirait et ce qui rebutait parfois.
Ce qui rebutait d'abord, monsieur Barclay, qui dit « Je te vois, ce petit... Bon, je n'en veux pas chez moi. Ouais. » Et non, et une voix hors norme, dont on sait qu'il pouvait chanter très bas et aller très haut. Et surtout très naturellement, la professeure à laquelle on de chant à l'opéra à qui on l'avait confié, Daniel a dit mais moi j'ai rien à changer. Elle a dit bon d'accord, on peut vous apprendre à respirer si vous voulez.
Et il est sur le fil, on l'entend hein, sur cette chanson. Il chante tous les cris, les SOS, une chanson très difficile à interpréter avec une justesse incroyable. Il y a eu des reprises, mais franchement c'est une chanson pour lui, une chanson sur mesure.
Ben, il les écrivait pour lui, hein. Il était pas fou le petit gars. Mais c'est ça qui est puissant. C'est que... Voilà, c'est ça.
Regardez,
qui est
écoutez cette justesse incroyable. Il aurait
dit « J'aime tellement ce disque que j'aimerais que ce soit mon dernier ». C'est vrai, ça?
Alors, je ne peux pas parler à sa place. Mais je sais qu'il le trouvait extrêmement précis dans ce qu'il avait envie de faire passer. Et voilà.
Daniel Balavoine, le rebelle, Claire Balavoine, dès son enfance quasiment, il fait une fugue alors qu'il est en pension, vous le racontez, en tout cas c'est raconté dans le livre, vos parents sont séparés, il faut le savoir, l'un est parti à Tizi Ouzou en Algérie, le papa.
Oui, il a été nommé là-bas, enfin voilà. C'était très bien ça.
Et la maman à Nice. Alors du coup il entre au pensionnat et il fait une fugue. Alors, bon, voilà, tout le monde le cherche. Finalement, il finit par rentrer. Et au moment où il rentre au pensionnat, il entend à la radio, dans la chambre d'un surveillant, une chanson qui va lui donner l'envie, voire qui va le décider à faire de la musique. C'est « She Loves You » des Beatles. Ça gratte, oui. Vous la chantez, cette chanson. Il gardera comme ça toujours une passion pour la musique anglo-saxonne. Après, ce sera Supertramp, Peter Gabriel. Il avait un projet d'ailleurs avec Peter Gabriel. Il est mort malheureusement avant. Il donne toujours à ses chansons une touche pop.
Oui, parce que... on est tous populaires. Il est de la terre. Il est. J'arrive pas à en parler au passé. C'est quand même terrible ce que j'ai dit. Mais oui, on se revendique dans la famille, enfin comme tel, en tout cas lui et moi, parce que d'abord Balavoine, on est en plus de souche basque à trois quarts, un peu landais, et c'est la terre. Et Balavoine, Balavoine, ça parle quand même. Il est pop, mais dans le sens contact direct, simple, immédiat avec les autres. Je crois qu'il a été cet artiste-là que tout le monde. Vous avez connu Daniel en tant qu'artiste. Chanteur, compositeur, interprète, mais s'il n'avait pas été cet homme-là depuis le départ, il n'aurait jamais pu pondre cela artistiquement avec autant de force. Et c'est parce qu'il était le même dans la vie et sur scène que ça a cette présence encore maintenant.
Et Michel Berger, lui, va être fasciné par cette voix. Oui, il va lui proposer un autre album concept, collégial. Celui-ci, c'est Starmania. Et dans le livre, il y a Fabienne Thibault qui dit qu'il a su apprécier ses relations avec ses homologues québécois malgré les différences. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a peu de collaboration entre les artistes français et québécois. Et là, il se passe quelque chose. Lui, il intègre tout de suite la mentalité québécoise.
Ben parce que Daniel n'était effaré ni embêté par aucune autre différence par rapport à ce qu'il était lui-même. Au contraire, il était toujours intéressé par l'autre. Et ça s'est passé tout seul. Bon, il y a quand même eu des frictions avec Diane Dufresne.
Avec Diane Dufresne,
mais ça, je pense que c'était par rapport à une relation d'un autre ordre.
Bah, ça, deux personnalités incroyables. Hein.
Ah, bah oui.
On a reçu Diane Dufresne dans l'émission, elle a gardé comme ça cette
femme.
Personnalité très forte. Alors, avec Daniel Balavoine, on peut comprendre.
Ça, c'est leur histoire à eux.
Oui, c'est leur histoire. Dirons-nous. Le succès arrive avec le chanteur. 800 000 ventes de l'album. 800 000. Balavoine est lancé, il agite les plateaux télé contre la guerre, pour une politique en faveur de la jeunesse. Il ouvre sa gueule dès qu'il le peut. Vous avez eu peur pour lui un moment, Claire ?
Jamais.
Jamais.
Moi, j'étais très fière de constater qu'il avait en lui la force de pouvoir oser être ce qu'il était, tout simplement. Il n'a jamais été une star, pas pour moi non plus, ni pour lui d'ailleurs, il n'en avait rien à faire. L'argent, il était content d'en avoir, mais il s'en fichait complètement. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir dire son bonheur, ses douleurs, et surtout aller au-delà, sur le terrain en général, quoi, et ne pas se contenter de dire « ouais, ça va pas ». Non, d'être vraiment sur le terrain de la vie qui l'insupportait ou qui le faisait vraiment s'éclater, et c'est ça qui fait sans doute la grande différence.
Oui, c'est ça, et il lance véritablement une nouvelle génération de chansons à texte, investi dans son époque comme un reporter, sauf que lui, il chante des choses très dures, parfois douloureuses, tristes, sans l'être. Il est toujours positif et il a toujours une musique très enlevée, dynamique.
Oui, il est vivant, parce qu'il n'a pas honte de dire « ça, ça ne devrait pas exister, mais voilà ce qu'on peut faire d'autre ».
Oui.
Voilà. C'est ça la différence.
Balavoine, les chansons de Daniel résonnent encore et toujours aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, malheureusement.
Et oui, parce que tout est organisé autour de nous pour qu'à aucun moment les humains croient que c'est possible. Et ça commence très tôt. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas les enfants à oser dire non.
Et tant qu'on n'arrivera pas à ça, vous, messieurs et mesdames, qui avez des enfants, osez accepter que votre enfant, votre fils ou votre fille, puisse dire « Non, papa, je ne suis pas d'accord. Non, maman, explique-moi. Et puis j'ai le droit de ne pas penser comme toi. » Et tant qu'on conditionnera ceux auxquels on a imposé la vie à ce que l'on pense, le monde ne changera pas. Donc c'est entre les 3 et 6 ans, 7 ans.
Que ça se joue.
Et moi, vivante, je vais tout faire pour ça.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Claire Balavoine, pour l'association ?
Pour moi, rien. Pour les enfants, à tout niveau de la société, plus que jamais. Moi, ce qu'on va faire avec l'association, c'est accompagner surtout les enfants au Mali, leur apporter des moyens pour aller à l'école, pour apprendre, comprendre, se défendre avec la plus belle des armes, la culture, la connaissance.
Et on peut vous aider financièrement ?
Et comment ? Vous êtes bien invité.
Le site internet.
Quelques milliards, comme vous voulez.
Donnez le site internet, s'il vous plaît.
Alors, associationdanielbalavoine.org. Bienvenue à tous ceux qui ont envie d'être heureux de voir leurs enfants ici et là-bas, heureux de vivre, tout simplement.
Merci beaucoup, Claire Balavoine. Le livre hommage est paru aux éditions Flammarion. Il faut se replonger dans l'œuvre musicale considérable de Daniel Balavoine, patrimoine de la culture francophone. À bientôt, Claire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et chaque semaine, dans cette librairie francophone de l'été, diffusée le dimanche en exclusivité sur France Inter, on part à la rencontre des libraires en soutien aux librairies indépendantes françaises. Aujourd'hui, cap sur Lille. Bonjour Franck Brunet.
Bonjour, bonjour les auditeurs.
Vous êtes libraire dans la librairie Furet du Nord. Comment ça se passe pour vous depuis la réouverture ?
Alors, c'est un grand balai. Hein. Depuis la réouverture, c'est-à-dire le 11 mai, hein, comme tous nos collègues libraires de France, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à recevoir énormément de monde. Ça a été vraiment le rush, on s'attendait vraiment pas à ça. Mais c'est d'abord un grand plaisir. C'est d'abord le plaisir d'avoir lu des choses, de pouvoir les repartager avec tous ces lecteurs qui ont besoin réellement de rencontrer, de voir des libraires, de toucher du papier, de toucher des livres. C'était vraiment une espèce de communion. Un budget qui n'a pas été dépensé, et là qui a été dépensé un peu frénétiquement dès le début. C'était un peu tourbillonnant, mais c'était presque extasiant.
Bon, parfait. Donc tout le monde s'est rattrapé finalement, et ça permet aux libraires de continuer à vivre à peu près correctement, va-t-on dire, après cette crise. En tout cas pendant cette crise, car malheureusement, c'est pas forcément fini. Bon, on vous a demandé de réfléchir à un livre pour l'été, un coup de cœur en fait, Franck, et puis une histoire personnelle. On va commencer par le livre. Quel est le livre que vous conseillez en ce moment aux clients de la librairie Le Furet du Nord ?
Alors moi, c'est Le Pays des Autres, hein, de Leïla Slimani. Forcément, tout le monde connaît déjà Leïla Slimani, et ce coup de cœur là, il est vraiment le mien parce que c'est un roman familial, hein, qui va durer 3 volumes, hein, puisque là on est vraiment sur le premier. C'est d'abord un coup de cœur de la chaleur, parce que j'aime beaucoup ces pays méditerranéens. C'est un coup de cœur aussi pour le destin d'une femme et d'une fratrie, le destin aussi d'un couple, hein, franco-marocain, déjà difficile à ces époques-là de le vivre. C'est ce destin en même temps de la petite histoire de ce pays, la petite histoire de cette famille et la grande histoire de la France et de ses colonies, en tout cas marocaines à l'époque.
Voilà, l'histoire de ce couple, effectivement, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Quel a été pour vous le coup de cœur ? Pourquoi vous avez aimé ce livre par rapport à son écriture, son histoire ?
Oui, les deux sont prenants. Je pense qu'un très bon livre, c'est quelque chose qu'on lit facilement, c'est quelque chose qui se déroule comme ça. C'est d'abord une somme d'anecdotes, c'est d'abord aussi des photos de personnages qui sont déjà très profonds, avec lesquels on est embringué, avec lesquels on va vivre. C'est vraiment tout ça. C'est vraiment cette alchimie que Leïla arrive à nous faire passer à chaque fois, de ce mélange comme ça, de rentrer dans ces personnages, de vivre vraiment les coups de cœur, de rester sur ces plages au soleil, les chemins rocailleux, cette petite fille qui va aller dans l'école. Voilà, on va suivre tous ces personnages, mais vraiment, ouais. Si j'ai vraiment un conseil à donner à tous ces lecteurs, c'est rentrons dans la famille de Leïla.
Bon voilà, le livre de Leïla Slimani paru aux éditions Gallimard, on l'avait reçu, Leïla, dans la version radio et la version télé d'ailleurs, que vous pouvez retrouver évidemment sur internet. Alors Franck, on vous a demandé donc une petite histoire personnelle liée à votre métier de libraire, une anecdote drôle ou émouvante, vous avez le choix Franck.
Moi, il y a deux moments dans la vie qui m'ont troublé avec un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Franck Tillier, qui est quand même quelqu'un du Nord aujourd'hui. Vous savez, au début de ma carrière, je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années, on faisait des soirées très thématiques comme ça, et puis des soirées, des fois, on invitait nos clients en fin d'après-midi ou en début de soirée jusqu'à 21h. Là, on avait Franck Tillier avec nous, et là, zéro, rien du tout. Personne ne vient le voir, c'était vraiment le vide sidéral. Mais un type charmant, quoi, qui, en plaisantant, voilà, nous a consolés. Et quelques années plus tard, j'arrive au Furet de Lille, On est en plein confinement. Franck, chaque fois, est attendu par 400 personnes. Cette année, on réagit un peu comme tous nos collègues en France Franck nous décide de nous dessiner des livres et nous dessine des premières pages. Et là, c'est l'apothéose. C'est un peu ma vengeance personnelle ou c'est mon espèce de feedback et de boucle qui se termine quelque part.
Voilà, la boucle est bouclée avec Franck Tillier, c'est ça.
Voilà, oui.
Bon, merci beaucoup, Franck Brunet.
Merci beaucoup et puis bon été à tout le monde et beaucoup de lectures sur les plages où vous soyez.
Bonne lecture aussi à vous. Je rappelle que vous êtes libraire au Furet du Nord. À bientôt, Franck, et bon été aussi à Lille. À suivre Josiane Balasco pour un roman palpitant. Ce sera après La Lune et le Soleil qui interprète Bonnie Banane. Bon été à tous avec la librairie francophone.
Le soleil.
C'était La Lune et le Soleil avec Bonnie Banane dans la librairie francophone.
Josiane Balasco est dans la librairie pour son livre « Jamais plus et autres nouvelles » paru chez Pygmalion. Et ça commence fort, Josiane, avec cette histoire improbable, digne d'une série télé, comme on en voit sur les célèbres plateformes internet. « Jamais plus » est un corbeau qui alerte votre personnage, une femme kiné qui a la capacité de communiquer avec les animaux.
Alors ça, je me suis inspirée d'un documentaire, parce que ça m'est arrivé de regarder la télé très tard, après avoir fini de jouer très tard la nuit sur des chaînes comme ça, des chaînes parallèles. Et il y avait eu un documentaire sur une Américaine qui était psychique, et qui était psychique pour animaux, c'est-à-dire que les gens avaient un problème avec leur animal, leur animal de compagnie en général, ils lui amenaient, donc on voyait des gens amener un chien et dire voilà, mon chien ne mange plus, il a un problème, il est déprimé, je ne sais pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il a, il a le poil terne, ça ne va pas. Et apparemment, il va bien. Alors elle demandait à être seule avec l'animal, on le voyait, posée sur ses genoux, elle avait l'air d'écouter. Ensuite, elle faisait revenir les patrons de l'animal. Et elle leur demandait, vous avez bien une grosse peluche jaune sur le canapé? Oui, mais pourquoi ne laissez-vous pas jouer avec? Il adore cette peluche et vous le refusez de lui laisser. Ça le rend très triste. Voilà. Je vous donne un exemple de la manière dont elle fonctionnait. Et ça m'avait frappé. Et je m'étais dit, qu'est-ce que j'aimerais écrire un personnage comme ça qui soit pas Dr. Doolittle, soit pas aussi évident, mais
qui communique, avec,
Avec des images, parce qu'elle expliquait que les animaux lui rendaient des images.
C'est exactement ça dans votre histoire.
Voilà. Et donc j'ai écrit, ça s'est terminé, que j'ai trouvé l'utilisation de cette idée en écrivant jamais plus, qui est cette jeune femme un peu handicapée, qui a une grosse cicatrice, qui ne conduit pas et qui est kiné, et qui va trouver sur son chemin un corbeau qui va l'alerter sur une petite fille en danger.
Voilà. Avec après un chat, des chiens aussi.
Et même une souris.
Sont là.
Une souris, on a un petit cerveau, des tout petits cerveaux.
Oui, c'est ça.
Tout petits signaux.
Mais vous dites, les souris, c'est compliqué de communiquer avec elles parce qu'elles ont un tout petit cerveau et elles envoient de petites images.
Mais oui.
Et là, j'ai dit, Josiane Balasco est complètement barrée. On l'a perdue sur l'histoire de la souris. Vous dites en tout cas qu'un animal, un chien notamment, nous rappelle aux bases de la vie. La vie continue quoi qu'il se passe.
Ah oui, mais c'est vrai, quand on a un animal, quand on a des animaux, qu'ils soient des animaux domestiques, j'entends des chiens, moi j'ai 3 chiens, un chat, même si je suis extrêmement déprimée, même s'il arrivait un drame profond dans ma famille, je leur donnerais à manger et à boire, et je les sortirais, parce qu'ils n'ont que vous. Vous êtes leur univers, donc c'est une responsabilité.
Dans cette autre nouvelle, le boss, il y a un jeune homme célibataire qui dorlote son chien, chien qui a une grande admiration pour lui, hein, c'est son patron.
Bien sûr, ah oui.
Donc forcément, jusqu'au jour où débarque une petite amie. Mmh. Et là, ça se passe pas très bien.
Là, je me suis mis dans la peau d'un chien, parce que moi, je connais quand même bien les chiens. Tout le monde, se dire, j'avais pas fait de transmission de pensée avec mon chien, mais il suffit de la regarder. Et c'est vrai que les chiens ont un dieu, c'est leur maître. Et donc, ce chien-là a un dieu, c'est son maître. Et donc, c'est le boss, puisque il parle à la première personne, je. Il raconte ce qui va se passer. Le boss va avoir une nouvelle petite amie qui est allergique au poil de chien, tout bêtement. Voilà, donc ça va mal se terminer. Alors beaucoup de lecteurs m'ont dit, mais elle est trop triste cette nouvelle. Je dis, elle est absolument pas fantastique ni de science-fiction, c'est la pure réalité des animaux qui se retrouvent abandonnés tous les étés au début des vacances. Quoi.
Ça vous fait rire ça, quand même.
Ça ne me fait pas rire.
C'est un petit peu.
Non, ça ne me fait pas rire, mais je veux dire, on va pas en pleurer non plus. Moi, mon chien, il a de l'humour.
C'est vrai.
Voilà.
Mais entre l'homme ou la femme et l'animal, le choix est vite fait, non?
Je pense je pense qu'on peut rompre avec quelqu'un qui est allergique au poil de chien si on a un chien.
Ah oui?
Ah bah oui.
Ah vous croyez? On ne choisit pas
Non, je crois pas.
Non,
non. Ou alors faut faire attention à qui on choisit. Est-ce que tu es allergique au poil de chien? Est-ce qu'on peut continuer dans notre relation ou pas? Voilà.
Super. Il y en a une autre qui s'appelle Adopte un zombie. Josiane Balasco, vous imaginez un monde qui se réorganise face à l'afflux de zombies dans les rues.
Ouais.
On pense là encore à une série télé, hein. Je suis pas fan, moi, des séries télé, mais.
Moi, je suis fan des séries télé. Moi, je passe ma nuit à regarder les séries télé, séries de zombies.
Tout est là. Voilà. Et donc, il y a la chancelière allemande Angela, qui est toujours à la tête de son pays, à 97 ans, et une jeune fille nommée comme elle, ses parents ont voulu faire honneur à la célèbre Angela, engagée dans la défense de la cause animale. Cette jeune fille, elle a une idée. Si chacun adoptait un zombie, le problème serait réglé.
Oui, parce qu'il faut expliquer que dans mon histoire, je prends toujours un petit peu le contre-pied de ce qui se passe dans les séries où les zombies sont quand même des êtres épouvantablement assoiffés de des prêts vous dévorer la cervelle en permanence. Enfin là, les zombies sont assoiffés de câlins. De tendresse, c'est-à-dire c'est aussi dégueulasse. Hein. C'est-à-dire c'est être pris dans les bras qui se décomposent, dans la cage thoracique est ouverte. C'est aussi répugnant. Bon, ils vous bouffent pas, mais c'est traumatisant. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si ces hordes de zombies débarquaient dans la rue en essayant à tout prix de donner des câlins aux gens qui passaient. Voilà.
Et du coup, vous évoquez la cause animale, l'air de rien, comme ça, avec une allusion à l'association L214. Comment vous expliquez, en revanche, Josiane, que cette défense de la cause animale déchaîne autant de passions dans un sens comme dans l'autre? C'est un débat sans cesse hystérique entre ceux qui défendent la cause et ceux qui rejettent les véganes, par exemple.
Oui, mais je pense qu'on peut défendre la cause animale sans forcément être végane. Moi, je suis pour un groupe qui s'appelle AVA, qui est contre la chasse à courre, vous voyez, qui va se faire quand même. C'est des gens qui ont assez de courage pour aller se mettre en travers des chasseurs à courre qui sont des gens à cheval et très violents. Ils distribuent des croquettes aux chiens de chasse qui, évidemment, perdent la trace de leur proie. Voilà. Moi, je suis assez. Et c'est pas pour ça que je vais pas manger de la viande. Mais c'est terrible, la nourriture que l'on mange, quelque chose d'industriel, ces animaux qui sont ces camps de la mort animaux où il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de. C'est pire qu'un objet. Ça, c'est terrible. Je pense que si. C'est vrai que si chacun tuait son animal soi-même, on mangerait moins de viande, hein, c'est sûr.
Ça, c'est sûr. C'est un véritable scandale, cette dernière nouvelle, Josiane Balasco.
Oui, mais je me suis inspirée d'une nouvelle d'un auteur des années 50 de SF. qui s'appelle John Wyndham, qui avait écrit Le règne des fourmis, où une jeune fille, une jeune femme était projetée dans un futur en utilisant une drogue et se retrouvait dans un monde où l'homme avait disparu suite à un...
Donc là, l'homme a disparu.
Suite à un gros virus.
Il y a le musée de l'homme, désormais, pour s'apercevoir finalement de ce qui se passait avant.
Et une jeune femme qui va regarder un truc en 3D, quatre femmes parler de cul.
Voilà. Et donc, il est question du sexe de l'homme, puisque l'homme est donc, dans votre histoire, conditionné finalement à la taille de son sexe. J'aimerais bien ceux qui ont des enfants autour d'eux, s'ils peuvent baisser le son juste une minute.
Il a disparu. Donc, on vient se renseigner. Ce sont des études, comme ça, on va avoir un docu. Comment c'était quand on avait des relation sexuelle avec un homme. Voilà.
Oui, avec la taille du sexe donc, qui est très important pour... les femmes.
Non, on ne parle pas. Il n'y a qu'une qui dit qu'elle a rencontré un type qui avait un nez extraordinaire qui la faisait jouir. Mais ça n'avait rien à voir avec la taille de son sexe. Vous voyez, c'était une sorte de Cyrano de... C'était pas Rocky Siffredi, c'était Cyrano Siffredi. Voilà.
Quel est le message, Josiane, de cette nouvelle ?
Alors ça, d'abord, j'ai commencé à vouloir raconter des histoires comme ça, de filles qui racontent leurs aventures. Ouais. Parce qu'à une époque, vous savez, c'était très à la mode de faire des romans érotiques, ou des nouvelles érotiques. Et moi, je disais, si j'en écrivais une, ce serait pour se marrer quand même. Ce serait pour raconter des histoires incroyables. La fille qui dit, oh là là, c'était une bouteille de Perrier, j'ai pas pu, je me suis sauvée.
Oui, voilà, vous le dites dans le livre.
Oui, je veux pas de pub pour Perrier, c'est bien.
Non, mais bon, c'est juste pour la taille.
Donc, et puis au fur et à mesure où j'écrivais cette discussion, je dis non, il ne peut pas y avoir que ces discussions, il y a quelqu'un qui écoute. Et la personne qui écoute va transformer finalement ce qu'on entend.
Bon, dans votre livre, Josiane, il y a autre chose. Vous rappelez sans cesse que le monde des vivants, c'est aussi celui des arbres, des plantes, des fleurs et des animaux. C'est un peu la morale de l'histoire en fin de compte. Ce qui aurait séduit Michel Serres, tous ces mondes communiquent entre eux et il n'y a que l'homme finalement qui s'en dissocie. Il ne communique pas à lui, il exploite la nature.
Vous voulez que je commente ?
Oui, c'est comme vous voulez.
Bah, vous avez tout dit.
Mais c'est ce qu'il y a dans votre livre.
Et surtout que maintenant, on découvre maintenant que les arbres communiquent entre eux, les arbres se défendent, les arbres protègent d'autres espèces. Bien, le problème, c'est que lorsqu'on découvrira que les légumes pensent, là, il y aura un problème pour les véganes.
Oui.
Parce qu'il va...
Là, on ne va plus rien manger. Mais. Bon, merci beaucoup Josiane Balasko. Jamais plus est paru chez Pygmalion. À bientôt Josiane. C'était Vanessa Paradis avec Divine Idylle dans la librairie francophone. Et on termine cette émission avec le bonus créole.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Corinne. Alors vous vendez ici sur le marché de Saint-Pierre des samoussas,
oui,
de différentes sortes. C'est une tradition culinaire aussi.
Oui, on ne peut pas faire le marché sans samoussas. S'il n'y a pas de samoussas, c'est pas un marché forain.
Alors qu'est-ce que vous faites comme genre de samoussa? Parce qu'on connaît les samoussas à la viande.
Oui, maintenant on fait beaucoup de légumes. Aubergines, raides. On fait même à la dakatine maintenant. On fait,
qu'est-ce que c'est ça?
Dakatine, c'est la pâte d'arachide, mais avec du piment. Après, on fait aussi morue pomme de terre. On fait sarsive, poulet. Si vous voulez goûter, ça ne dérange pas. Là, c'est chaud, ça vient de sortir.
D'accord, alors allons-y. Un poulet piment, tiens.
Un poulet?
C'est chaud.
C'est chaud, oui.
C'est très bon. C'est très bon, le poulet piment.
C'est bon, merci.
Donc, en fait, c'est haché à l'intérieur.
Ah oui, oui, tout est haché. On fait un poulet rôti, enfin, un poulet. Et après, on rajoute des oignons verts, des choux, voilà.
Et alors, du coup, c'est vrai que vous ne désemplissez pas depuis tout à l'heure.
Non.
On fait le marché en mangeant les samoussas.
Oui, 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 oui. S'il n'y a pas de samoussas, eh ben, les gens sont, ils sont déçus. Parce qu'ils sont... Ils commencent par les samoussas, ils font le marché et ils en ramènent toujours chez eux.
Alors d'où elle vient cette tradition d'après vous, vous savez ça?
En fait, moi je suis née dedans depuis tant petite. On a commencé, ce sont les Indiens qui ont introduit ça à La Réunion. Et voilà, ça s'est...
Répandu partout.
Ça s'est répandu partout dans toute l'île et chacun maintenant fait à sa sauce.
D'accord.
Voilà.
Et dans les familles, on en fait aussi à la maison alors?
On en fait à la maison, oui, oui. Auparavant, les gens achetaient, maintenant ils ont appris à faire des samoussas. Nous, c'est vraiment à la vraie pâte. Et ça reste croustillant jusqu'à ce soir.
Ah ouais, ouais.
Tandis que la galette, elle deviendra mou. Ouais. Vous voulez goûter un fromage?
Non, c'est bon. Je vais vous en acheter. Parce que comme c'est la tradition, je vais tenir cette tradition-là et je vais les emporter.
D'accord.
Puisque j'ai fini de travailler.
Ok.
C'est pas mal.
Bon,
merci beaucoup en tout cas pour cet accueil ici sur le marché de Saint-Pierre. Vous êtes juste au début, hein, pour ceux qui viendront à Saint-Pierre, sur le marché. Il y a un rond-point et vous êtes juste au tout début du marché.
Voilà, on appelle ça le rond-point maïs. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.
C'était le bonus créole sur le marché de Saint-Pierre à La Réunion avec la musique de Tifred. C'est la fin de cette librairie francophone de l'été sur France Inter. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation et la production, Cyril Pascal et Victor Porin, avec la contribution de Jean-Philippe Verret. À la technique, Juliette Delperroux et Thierry Dupin à la prog musicale. On se retrouve samedi à 9h pour la librairie francophone estivale avec Daniela Ferrière, Tahar Benjelloun, Olivia Ruiz, Alain Mabankou et un reportage en Suisse dans les vignes. Dimanche prochain, dans cette librairie francophone de l'été, diffusée uniquement sur Inter. Vous entendrez Francis Huster, Dominique A et Uderzo, entre autres. Bonne semaine à tous et bon été.